Témoin du chemin. Une émission réalisée par Domitil de Vevey.
L'expérience, l'aventure de ce pèlerinage est juste extraordinaire.
Parce qu'en fait, on n'est jamais autant libre que sur ce chemin. On est d'une liberté absolue.
On s'aperçoit vite que tout est beaucoup plus simple que dans notre vie de tous les jours.
Quand on revient de Saint-Jacques, on n'est pas indemne.
Souvent, les randonneurs partent marcheurs et arrivent pèlerins.
En tant que médecin, je dirais que ça serait vraiment une bonne chose à mettre sur certaines ordonnances. Pèlerinage à Saint-Jacques, matin, midi et soir, pendant 2 mois, c'est formidable, quoi.
Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle attire chaque année des milliers de pèlerins jusqu'à la ville de Santiago en Espagne. Exception faite de ces 2 dernières années marquées par l'épidémie de Covid-19, le nombre de marcheurs sur les chemins n'a cessé d'augmenter depuis 30 ans. Cette année 2021 est particulièrement importante. En effet, et cela n'arrive que tous les 5, 6 et 11 ans, la Saint-Jacques tombe un dimanche, un événement qui survient 13 à 15 fois par siècle. La dernière année jubilaire remonte à 2010. 11 ans se sont donc écoulés depuis. Autant dire que les pèlerins, qu'on appelle aussi les jacquets, l'attendaient de pied ferme. Ils ont repris la direction de la cathédrale de la capitale de la Galice avec la levée de l'état d'urgence sanitaire le 9 mai dernier en Espagne. Mais qui sont-elles, ces personnes qui marchent sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle ? J'ai posé la question à Gaëlle Delabrosse, éditrice, journaliste à l'hebdomadaire Le Pèlerin et cofondatrice de la revue et du réseau Chemin d'Étoiles. Elle est également l'auteur du guide spirituel des chemins de Saint-Jacques et plus récemment du guide spirituel de la voie du Puy-en-Velay aux éditions Salvator.
On peut peut-être définir le pèlerin. Qu'est-ce qu'un pèlerin ? Parce qu'il y a beaucoup de questionnements sur le chemin de Compostelle entre les randonneurs, les marcheurs, les pèlerins, les touristes. Donc le pèlerin, sens du mot pèlerin, l'étymologie, c'est père aguerre, donc celui qui traverse son champ, père à travers, aguerre le champ, pour aller au-delà de ses limites, donc pour partir à l'étranger, et il devient lui-même un étranger. C'est ça l'étymologie du mot pèlerin, c'est étranger. Alors aujourd'hui, quels sont ces pèlerins ? Eh bien, ils sont effectivement très différents des pèlerins du Moyen-Âge qui partaient essentiellement pour des raisons religieuses, hein, pour expier leurs péchés, notamment, ou bien pour une intention particulière. Et aujourd'hui, c'est assez différent puisque le panel des motivations va du pèlerin qui part pour ces mêmes motifs religieux au pèlerin qui part pour des motifs spirituels au sens large du terme, c'est-à-dire qu'il enquête, il a une sorte d'insatisfaction dans sa vie et il part pour donner du sens à sa vie. Et il y a aussi des randonneurs donc qui partent pour marcher simplement et on dit que souvent les randonneurs partent marcheurs et arrivent pèlerins. Donc il y a tout ce panel des motivations très différentes. Alors, et de manière générale, on peut dire quand même que de toute façon, le pèlerin est celui qui part pour retrouver un certain rythme, voire la vie qu'on a, pour justement ralentir ce rythme, trouver un peu plus de sobriété, se reconnecter avec la nature, remettre son corps en mouvement, et puis de toute façon, toujours avec une motivation spirituelle. Même le randonneur, je dirais, hein, parce que se reconnecter avec la nature et toutes ces belles aventures qu'on vit sur le chemin, c'est toujours une reconnexion avec soi, bien sûr, mais aussi avec l'autre, avec un petit A, et souvent, ce qui mène aussi à une reconnexion avec l'autre, avec un grand A, qu'on définira comme on le veut.
Daniel Rago, président de Web Compostela, est responsable de l'accueil francophone à Santiago depuis 2016. Il voit passer tous les jours des personnes qui achèvent leur pèlerinage. Il nous rend compte de ses observations sur le sujet.
Donc le profil des pèlerins, ce sont très souvent des gens qui sont à la retraite. Il y en a beaucoup d'ailleurs, c'est l'occasion, le passage à la retraite, de faire ce chemin qui les faisait un petit peu rêver depuis 10 ou 15 ans très souvent. Et puis bon, ils décident de se mettre sur la route sans trop savoir ce qui les attend. Il y a aussi plusieurs sortes, pardonnez-moi l'expression, de pèlerins. Très nombreux sont ceux qui font ça par tronçon, qui vont faire 200 km une année, 300 une autre, etc., qui, comme ça, au fil des années, finissent par arriver à Santiago. Il y en a quelques-uns, beaucoup plus rares, je ne sais pas, ça doit être de l'ordre de 10%, qui font le chemin d'une traite. Alors, très souvent, ils partent du puits, d'autres partent des grandes voies traditionnelles. Il y en a beaucoup qui font, je crois que c'est l'énorme majorité, qui font le chemin en 2 tronçons. Un premier tronçon qui les emmène aux Pyrénées, et puis le deuxième tronçon qui leur fait faire la traversée de l'Espagne.
Et sur le plan sociologique, la diversité est très présente.
En termes de personnalité, toutes sortes de personnalités. Mais là, vraiment, on touche, j'allais dire, toute la gamme. Il y a des croyants, des incroyants, des gens très engagés, des gens entre guillemets pépères. Sauf que pour être pépère, pour faire le trajet, ça décape. Il y a aussi de tous les âges. Je crois que le plus jeune pèlerin que j'ai vu arriver avait 8 ans, accompagné par sa maman, qui avait fait tout le chemin depuis le début de l'Espagne, donc quand même 900 km. J'ai vu des personnes de plus de 90 ans le faire. J'ai vu des femmes, j'ai vu très souvent, ils viennent par groupe de deux, mais c'est soit deux, soit tout seul. Rares sont ceux qui viennent en groupe plus nombreux. Il y en a quelques-uns, mais c'est plus rare. Quant aux moyens de locomotion, on trouve de tout. J'ai vu des pèlerins partir d'Irlande avec un drakkar qu'ils avaient eux-mêmes construit et venir avec leur bateau à la Fordera. J'en ai vu un qui arrivait de Kiev. J'ai vu un pèlerin arriver un jour au monocycle. Des pèlerins quelquefois arrivés à cheval. On voit deux. Tous les profils et toutes les nationalités. L'essentiel des pèlerins, évidemment, ce sont des Espagnols qui font le chemin sur place. Ça représente à peu près la moitié. Ensuite, les Allemands, qui sont en très grand nombre. Ensuite, je sais que les Français de France ne représentent que 6%, je crois, des pèlerins accueillis à Saint-Jacques.
Léonard Tandeau accueille lui aussi des pèlerins toute l'année dans l'hospitalité de Saint-Jacques à Estaing, dans l'Aveyron. Il s'agit d'une halte référencée par Web Compostela, située à une semaine de marche après le Puy-en-Velay, et il confirme la diversité des profils rencontrés, y compris sur le plan de la spiritualité.
Toutes sortes de pèlerins, de positionnements entre des personnes de foi ou de foi différentes. Hein. Il nous arrive quelquefois d'avoir des musulmans qui viennent sur le chemin de Saint-Jacques ou des bouddhistes, ou, etc. C'est très très varié. Ou des gens sans religion ou en recherche de la religion de leur enfance ou à la recherche, un peu bizarre de le dire comme ça, d'une conversion. Parce qu'en fait, s'ils recherchent la conversion, c'est qu'ils sont déjà convertis. Ils n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qui vivent, quoi. Je dis souvent avec un petit peu de provocation que s'il n'y avait que des catholiques pratiquants, ça ne serait pas vraiment notre truc. Parce que pour nous, c'est intéressant de voir des gens qui cheminent vraiment à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un.
Ce qui est frappant, c'est que cette recherche de spiritualité n'est pas toujours admise au premier abord.
Donc en clair, je ne cherchais rien, mais je fuyais beaucoup.
Laurence Lacour, éditrice, partie seule sur la voie du Puy-en-Velay, en 1998, nous raconte.
C'est-à-dire que j'ai essayé derrière moi, j'étais à une époque de ma vie qui était la quarantaine, où je me posais beaucoup de questions, notamment celles, je n'avais pas d'enfant, c'était un grand souci, un grand chagrin pour moi. Et à un moment donné, comme je tournais beaucoup en rond autour de cette question obsédante, je suis partie, j'ai un peu brisé le cercle. Donc je suis sortie de ce cercle, mais comme on s'échappe de quelque chose pour justement essayer de trouver son salut ailleurs, dans une autre dimension, dans un autre espace. Mais après, au bout d'un mois, justement par la grâce des rencontres, par la beauté, par tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai redouté parfois, ma démarche a été autre. À partir d'un moment, j'ai compris que je ne fuyais plus, mais que je marchais vers quelque chose de nouveau. Et ça, ça a correspondu d'ailleurs à la limite physique et géographique de l'entrée en Espagne. Et voilà, donc la partie espagnole, qui d'ailleurs était donc la plus difficile, vent, neige, froid, eh bien, malgré tout, j'ai pu l'amener au bout parce que je savais à partir de ce moment-là vers quoi je marchais et je n'étais plus en train de fuir quelque chose.
D'autres partent sur le chemin de Compostelle sans même le savoir et le découvrent en randonnant. C'est le cas de Dominique Daniel.
J'ai une amie qui m'a fait découvrir l'Aubrac et ça a été une révélation. Donc je m'étais promis de revenir marcher pour découvrir l'Aubrac et j'ai organisé donc seul une marche de 10 jours qui me menait, donc il fallait un point de départ, le Puy-en-Velay, et je suis allé jusqu'à Figeac. Et il se trouve que c'est le GR65, et le GR65 c'est le chemin de Compostelle, donc depuis le Puy-en-Velay. Donc dès le premier soir, je me suis retrouvé dans un gîte avec des pèlerins. Et tout au cours de ces 10 journées, j'ai partagé la vie des pèlerins. Et là, il s'est passé quelque chose de très très fort en termes de rencontres. La rencontre évidemment avec les pèlerins, avec les hébergeants, avec les gens dans les villages, dans les petites villes. Et quand j'ai fini ma marche, donc à Figeac, j'étais dans le train, je rentrais à Paris à la maison, et je me suis dit, il faut absolument que je reparte. Donc je suis rentré, je me suis organisé familialement, professionnellement, et je suis reparti un mois après, sur le chemin, et là vraiment sur le chemin de Compostelle. aller parce qu'il y a sûrement un besoin très fort de me plonger dans la nature. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Peut-être plus je vieillis, puis je vis quand même à Paris. Donc même s'il y a des parcs à Paris, le besoin de nature est très très important. C'est aussi la possibilité de sortir d'une certaine agitation sociale, professionnelle, urbaine. Voilà un petit peu. Et effectivement, maintenant, je dis parfois, oui, je suis un peu addict au chemin. Oui. Mais à celui de Compostelle, c'est pas neutre d'être sur le chemin de Compostelle.
Les rencontres avec les autres sont constituantes de l'expérience de ce pèlerinage. Et les autres, ce sont aussi ceux qui accueillent les pèlerins. Daniel Rago nous explique les différents types d'hébergements qui existent sur le chemin.
Alors, il y en a de plusieurs sortes. Quand on est en amont des grandes têtes de départ, c'est-à-dire en amont du puits, en amont de Arles, etc., très souvent, ce sont des chaînes d'accueil, c'est-à-dire d'anciens pèlerins qui se sont déclarés près de l'association locale en disant qu'ils acceptaient d'héberger des pèlerins de passage. À partir des grandes têtes de départ, Arles, Le Puy, Vézelay, etc., il y a en général des accueils pèlerins qui existent très régulièrement, soit qui ont été montés par les mairies, par les associations locales, par différents organismes, qui accueillent les pèlerins pour des tarifs très très réduits. Alors ça peut arriver que ce soit dans un camping, dans une salle municipale, dans une école, etc., ou dans des gîtes tout prévus en ce sens. Nombre de gîtes, et c'est cela que l'on répertorie dans les guides des haltes Jacquaire, on a un autre système, ce qu'on appelle le système du donativo. Ça, c'est un principe essentiel sur les chemins. Le principe du donativo, c'est on donne ce que l'on veut en tant que participation aux frais. Le pèlerin, en fonction de ses moyens, verse dans la cagnotte commune. Et le vrai de vrai donativo, et je connais certains endroits où c'est comme ça, il est même poussé à l'extrême où si le pèlerin n'a vraiment pas d'argent, il peut prendre aussi dans la caisse. Et on lui fait confiance pour prendre ce qui est son strict nécessaire. Donc c'est vraiment un système d'entraide qui correspond à l'esprit du chemin.
Et pour les chrétiens, Web Compostela, dont Daniel Rago est le président, répertorie des lieux d'hébergement qui ont deux particularités.
Un, respecter l'esprit jacquaire à propos du donativo. Il faut que l'aspect argent ne soit jamais un obstacle pour quelque pèlerin que ce soit, même s'il est complètement fauché. Et l'autre point, c'est d'assurer ou d'être relais pour des points de réflexion spirituelle. Alors certains gîtes proposent eux-mêmes des temps de prière, des temps de réflexion, des temps de discussion, etc. D'autres gîtes, ça va être beaucoup plus simple. Ils donnent tout simplement les coordonnées de la paroisse la plus proche, du contact avec un prêtre ou autre le plus proche, qui sont engagés bien sûr à rester à disposition des pèlerins, qui assurent aussi dans la mesure du possible la bénédiction de la crédence, c'est-à-dire de carnet du pèlerin, le soir avant d'aller se coucher ou le petit matin au moment de partir, pour assurer une bénédiction chrétienne au pas du marcheur.
Web Compostela assure aussi un accueil francophone à l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous en reparlerons dans le 7e et dernier épisode de Témoins du chemin. La présence de haltes chrétiennes tout au long du chemin offre un véritable soutien à ceux qui cherchent une écoute bienveillante. Laurence Lacour nous livre à ce sujet l'histoire de sa rencontre avec l'abbé de Navarinx.
Cet abbé, qui est malheureusement décédé depuis, c'était le père Sébastien Hildoy, qui était un prêtre en Béarn, dans une petite commune qui s'appelle Navarinx, et où il était implanté depuis à l'époque une vingtaine d'années, justement. Donc il veillait depuis les années 70. Et le père Hildoy était un homme très simple, très bon, dont la porte était toujours ouverte et qui accueillait de manière, je dirais, quasi biblique. Entre chez toi, il y a forcément quelque chose à manger pour toi, à boire, il y a un lit, et voilà, prends ce dont tu as besoin et repars demain mieux, parce qu'évidemment, on ne s'arrête qu'un soir, mais en un soir, c'est quelqu'un qui, par sa lumière, par son écoute, par sa perception très fine, par son charisme, eh bien, a su, pour ma part, en quelques phrases, mais je sais que beaucoup d'autres sont passés par les mêmes dimensions, me donner un sens à mon chemin.
Aujourd'hui, les hébergements de ce type sont très bien répertoriés sur Internet, sur le site webcompostela.com. Vous trouverez aussi les contacts pour des hébergements en Loire-Atlantique grâce à l'association Les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique qui recense des hébergements chez l'habitant. Notez que pour pouvoir bénéficier de ces donativos, il faut nécessairement s'être fourni une crédentiale, le passeport du pèlerin, qui permet d'attester de votre démarche. La crédentiale est vendue pour une dizaine d'euros dans les associations jacquaires. Merci à Laurence Lacour, à Daniel Rago, à Léonard Tando, à Dominique Daniel et à Gaëlle Delabrosse pour leur participation à ce troisième épisode de Témoins du chemin. Vous lirez en détail l'histoire de Laurence Lacour dans le formidable ouvrage collectif à Compostelle, édité chez Salvatore. Vous pouvez aussi vous procurer en seconde main le récit de son pèlerinage dans un livre qu'elle a publié en 2003 sous le nom de Yendia Yende, Tout homme est homme, sur le chemin de Compostelle aux éditions Bayard. Le générique a été réalisé par Alex Dirks. Le prochain épisode de Témoins du chemin vous donnera une approche plus religieuse du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Alors, comme disent les pèlerins, Ultreia et Suseia.